Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes. Ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales. Sans drapeau, sans couleur, sans base gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tari par escale. Entre charter, expulsion, univers carcéral. N'être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus, par-dessus, autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. On ne croit plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radical. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. Que la résignation pour toi est le plus court des chemin. Sur la brèche insolente et la branche ils ont scié. C'est tiens le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber des racines asséchées de nos précieux oliviers. Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar. Quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir. Les murs se taisent, nos morts sursaignent. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus, par être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Pour une guerre à ciel ouvert.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence avec donc Jean Mathias qui nous parlera d'un livre de Pierre Thévenan et de Jean-Charles Stevens, On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort aux éditions Anamosa. José Oplatine qui vient de nous diffuser un petit morceau de Lagal, une rappeuse suisso-libanaise, je crois. Et le morceau s'intitule Frontières. Voilà, donc, ces temps-ci, entre l'Ocean Viking et différents événements, on a pu entendre répéter souvent cette phrase qui, à l'origine, avait été prononcée par Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et Michel Rocard, donc premier ministre socialiste, 88-89, je crois, environ, dans ces eaux-là, avait ajouté « Mais elle doit en prendre sa juste part ». Et assez étonnamment, enfin, ou sans surprise, dirons-nous plutôt, on a surtout retenu la première partie de la formule, on a complètement oublié la seconde. Quand on oublie la seconde partie de Michel Rocard, on peut se dire qu'on est vraiment dans la merde. Mais même avec les deux parties d'ailleurs.
Qu'est-ce bon, que mais... tu peux faire avec une moitié de Michel Rocard?
Un cake? Non, vraiment. je sais pas trop, mais et donc là, voilà, cette formule est revenue. On l'a vu un petit peu reparaître sur les réseaux sociaux et finalement, elle traîne un petit peu dans toutes les têtes. Et donc, évidemment, Thévagnan, alors c'est un philosophe. Il a mis en place le site avec deux trois autres personnes. Le site, les mots sont importants, et les messies. Et Jean-Charles Stevens, par contre, je vois pas qui c'est, mais
un avocat.
Et donc un juriste
belge.
Et évidemment, pour quelqu'un comme Thévagnan, pour qui justement les mots sont importants, voilà, qu'est-ce que veut dire cette phrase, quoi ? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et donc c'est un petit texte qui fait 80 pages à peu près dans ces deux-là. Et aux éditions de Namosa, c'est pas cher du tout. Et avec ça, vous pouvez peut-être avoir quelques armes intellectuelles pour vous défendre contre la bêtise ambiante.
Ouais, ça vient de sortir. Hein. C'est de 2022, je sais pas exactement, mais c'est très récent. Et oui, on avait. J'avais envie de présenter ce petit texte là très efficace et rafraîchissant là, si on peut dire, lors de notre dernière émission là qu'on a dû annuler parce qu'on a tous été pris en otage par des grévistes dans les transports et qu'on n'a pas pu accéder au studio malheureusement. Et en fait ça tombait alors en même temps l'actualité ne nous dément pas, puisque à l'époque il y a 15 jours je m'étais dit en fait on était en plein émoi autour des déclarations d'un député du Rassemblement National qui avait effectivement invité un de ses collègues à retourner en Afrique, enfin soit son collègue soit tous les gens comme ce collègue, hein, c'est-à-dire des gens plutôt noirs de peau. Et donc effectivement, à l'occasion de cette sortie là, et puis de l'arrivée de l'Ocean Viking à Marseille. On a vu effectivement refleurir tous les poncifs autour de cette formule-là. Alors, tu disais effectivement, ce qui rappelle évidemment tout de suite, hein, que c'est une formule qui en général est attribuée à Rocard suite à une interview qu'il avait faite à la télé, où il avait eu effectivement cette formule-là, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais doit en prendre sa part. Alors oui,
sa juste part.
Alors, t'as raison de dire que très souvent, on oublie la deuxième partie de la formule, mais ce que montrent Thévagnan et Steven, c'est que la première partie en tant que telle pose déjà beaucoup de problèmes, hein, voilà, et que et alors du point de vue de la méthode, alors c'est pas un livre théorique, très théorique ou très abstrait, hein, tu as présenté comme philosophe ce qu'il est effectivement, Thévagnan, c'est un enseignant, il enseigne la philosophie, un peu de sociologie également. Et mais là c'est un livre qui est très 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 lisible et qui est surtout intéressant, je trouve, par sa méthode et puis par son contenu. Sa méthode, effectivement, c'est dans la continuité de ce qu'il fait sur son site, hein, les mots sont importants, où il s'attache toujours à justement décortiquer un certain nombre de poncifs ou de formules toutes faites qui aveuglent et qui paralysent un petit peu la réflexion avec des fausses évidences comme ça. Donc il est très très sensible évidemment aux différentes connotations, à ce que cachent les mots, alors que surtout quand ils paraissent évidents. Et là c'est vraiment le cas avec cette formule là. Donc en fait il prend de manière assez méthodique, hein, les différentes parties de la formule, c'est-à-dire et il pose la question de savoir de quoi on parle, hein, de quoi on parle à chaque fois. Donc on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, alors qui est ce on, en quel sens on ne pourrait pas, de quel accueil on parle, toute la misère du monde, quelle est cette totalité qui est supposée dans la formule, et la misère du monde, de quoi s'agit-il ? Voilà. Et évidemment, ce qu'ils prennent le temps de faire tous les deux, c'est d'analyser, chiffres à l'appui, les données objectives qu'on peut avancer, en fait, pour essayer de comprendre ce que voudrait dire cette formule-là, et ce qu'en fait, évidemment, elle ne dit pas, et ce qu'elle occulte, au contraire. Donc, la méthode est intéressante, et il y a beaucoup de données aussi, hein, qui sont aussi bien choisies, et utilisé de manière très éclairante, je trouve, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme dirait Laurent Wauquiez. Et donc, qu'on ne cite pas assez sur cette antenne.
C'est, il ne nous manquait pas. Hein, voilà, on peut avoir une deuxième moitié de cake avec le reste de, avec l'autre moitié de Laurent Wauquiez, si on l'ajoutait à celle de Michel Rocard, mais bon.
Alors, deux questions. Peut-être sur deux mots sur le titre d'abord pour commencer. Donc, alors il y a un titre et un sous-titre, et évidemment les deux sont, les deux vont ensemble. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ça c'est le pensif. Et en dessous, l'interprétation qu'ils en proposent est présente dès le sous-titre. En finir avec une sentence de mort, et c'est comme ça qu'ils présentent effectivement leur analyse, en comprenant et en proposant de montrer que cette phrase qui se présente comme un constat et comme une espèce d'évidence de bon sens, du bon sens près de chez vous, est en fait effectivement une sentence, c'est-à-dire que c'est une phrase qui affirme et qui produit en réalité ce qu'elle affirme à tort constaté. Et c'est-à-dire que on ne peut pas accueillir la misère du monde, c'est effectivement ça fonctionne comme une espèce de couperet et de jugement qui vient pourrir l'existence et tuer en fait un nombre considérable de personnes. Et donc tout le but de ce petit texte, c'est d'essayer de montrer comment elle fonctionne comme une sentence et pourquoi il s'agit en réalité absolument pas d'un constat ou d'une évidence de bon sens. Alors, il me semble le plus simple, c'est peut-être de discuter. Je vais vous lire un certain nombre de passages, de données, pour que vous ayez une idée un petit peu des arguments et puis des chiffrages sur lesquels il s'appuie. Et puis de suivre le texte tel qu'il est construit, hein, c'est-à-dire en analysant, de manière un peu méthodique les différents termes de la formule. Alors d'abord, il y a évidemment une première interrogation qui porte sur le fameux « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Alors il y a évidemment cette question de savoir qui est ce « on » dont on parle et comment on utilise ce pronom indéfini en français. Le point évidemment, c'est que c'est un pronom indéfini, on. C'est-à-dire que c'est personne en particulier. Mais par contre, ça fonctionne de la manière suivante, hein, c'est-à-dire que la remarque qu'ils font, hein, donc je les cite là, page 12, hein, ce on ou ce nous, hein, qu'on peut retrouver dans nous traversons une période difficile ou nous vivons dans un pays qui nous allons devoir prendre des décisions difficiles ou nous devons faire des sacrifices à chaque fois, hein, c'est cette espèce de première personne du pluriel qui est avancée. Alors ils expliquent effectivement que ce nous, c'est toujours utilisé comme un pronom qui est abusivement exclusif, hein, dans la mesure où la communauté qui est postulée, le nous, le on, aussi vaste soit-elle, elle est malgré tout définie par un contour qui indique un dehors, une altérité qui est justement exclue du nous. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors c'est le nous ou c'est le on ?
Alors là, en l'occurrence, les deux fonctionnent pareil. C'est-à-dire que
le nous se définit toujours par rapport à un e.
Oui.
Et alors, même elle met le on.
Et alors, c'est un peu
le
plus...
on, c'est un blob.
C'est un blob. Alors, donc, on va dire, mais il essaye de, comment dire, de pas se faire l'avocat du diable, mais il va progressivement essayer de donner un contenu à ce on. S'il ne s'agit pas d'un blob, il s'agit donc d'un nous. Et ce nous, c'est doit être la France, très probablement. Et donc, il avance comme ça en zoom. Et alors, ce nous, abusivement exclusif, hein, effectivement, il se construit avec une altérité, avec un dehors. Hein. Le nous signifie en effet je et tu, ou encore je et vous. En tout cas, moi et des autres. Hein. Mais pas, précise-t-il, ou très rarement, moi et tous les autres. Ce « nous » se distingue du « je », mais il s'oppose aussi presque toujours à un « e ». Le contenu de ce « e », il peut être plus ou moins explicite ou implicite, mais le « nous », il construit toujours un dispositif à trois termes. Ça, je trouve que la remarque est intéressante. Il y a moi, il y a les autres que j'associe à moi, et qui sont donc sous des modalités variables pour une raison ou pour une autre, les miens. Et puis après, il y a ce qu'il appelle les « autres autres ». Voilà. Les autres autres qui ne sont pas les miens, et que je n'inclus donc pas dans le « nous », mais plutôt dans un « e ». Voilà. Et alors, ces autres dont je parle, puisqu'il s'agit toujours d'une phrase qui est prononcée par quelqu'un, hein, ou nous parlons parfois à la troisième personne, donc ces autres ne sont ni des sujets parlants, des je ou des nous, ni des destinataires de notre parole, qui seraient des tu ou des nous, hein, les miens, ni des destinataires de notre parole, ce sont de purs objets parlés, nous dit-il. Ce sont nous des objets qui sont parlés en leur absence. Donc sans possibilité matérielle de répondre et d'être entendu, ce qui ouvre bien entendu sur une violence possible. Tout cela en fait est de bonne guerre politique, remarque-t-il, hein, chaque camp créant son « nous » en opposition à « eux » à combattre, « nous les bons contre les mauvais »,« nous les vrais contre eux les faux », ou plus précisément dans la pensée de gauche, « nous les travailleurs exploités contre eux les bourgeois exploiteurs ». Ou dans les pensées nationalistes et racistes, « nous les Français » ou « nous les Belges » contre eux les étrangers, nous les bons Français ou les bons Belges, contre eux les mauvais, nous les autochtones, contre eux les allochtones, nous les Français de souche, contre les Français de papier, toutes ces expressions étant évidemment à utiliser entre guillemets. Donc le « nous » ici signifie donc « moi et toi et lui et elle, mais pas lui et pas elle ». Voilà.
D'accord.
Et évidemment, ce qui n'est pas très difficile de voir dans ce dispositif et dans l'usage de ce pronom, un cadre qui est... structurellement xénophobe ou tendanciellement xénophobe, puisque entre les autres qui sont comme moi et puis les autres qui sont évidemment pas comme moi, il devient possible de faire tomber un rideau de fer qui va nous protéger des autres. Alors ça c'est pour le on, hein, pour le premier point, donc on à savoir nous Français, nous Belges, nous ce que vous voulez. Passons au ne peut pas maintenant. Alors, le ne peut pas, ça, c'est pareil, c'est une analyse effectivement assez classique quand on est en cours de philo de terminale. Lorsque on a une formule en ne peut pas,
ou légitimité.
La question est de savoir si effectivement on est en train d'expliquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible ou s'il y a quelque chose qui n'est pas permis, qui n'est pas légitime. Hein. Effectivement, cette formule. On peut l'entendre, évidemment, de ces deux manières-là. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sous-entendu, ce n'est pas possible. Hein, ce n'est pas possible.
Nous manquons de ressources.
Et on ne peut pas accueillir la misère du monde, c'est interdit. Et nous vous interdisons, vous autres, ou presque autres, de venir chez moi, en fait, hein, voilà, pour continuer à tresser sur ces pronoms. Évidemment, s'il est impossible d'accueillir des étrangers, il apparaît. Du coup, évidemment, illégitime de demander le moindre compte et la moindre remise en question.
Pour le coup. Là, tout de suite, on sort évidemment des mots, puisque si on dit que c'est impossible, ça suppose un constat, un état de fait.
Bien sûr.
Donc, au nom de quoi, en fait, on peut dire qu'on n'a pas les moyens, par exemple, matériels, financiers, etc., d'accueillir. Après, qui ? Mais, puisque toute la misère du monde, là aussi, ça, on n'est pas encore passé dessus.
Alors, c'est exactement.
Et donc, effectivement, après, on peut glisser de l'état de fait à une qualification. Quasi normative, du genre ce n'est pas possible, donc ce n'est pas souhaitable, ou ce n'est pas légitime.
Et c'est interdit.
Et c'est interdit. Ça devrait être interdit.
Voilà. C'est exactement effectivement comme ça, dans ces termes-là qu'il analyse, en précisant donc que le nous ne pouvons pas, il vient en somme, en lieu et place du je ne veux pas. Je ne veux pas, et il permet de...
Sachant que le je ne veux pas est beaucoup plus difficile à justifier.
Bien évidemment.
Toujours. Puisque, et pourquoi tu ne veux pas ? Et donc ça va renvoyer à l'impossibilité.
Alors là, ils en mettent une petite couche pour Rocard, je suppose, ou pour tous les rocardiens de toutes obédiences. Hein. Nous ne pouvons pas, vient en somme, en lieu et place, je les cite toujours, en lieu et place du je ne veux pas, et permet de sauver les apparences de la volonté bonne. De l'intention pure.
Si j'avais pu, j'aurais bien voulu.
Du petit cœur humaniste, chrétien de gauche, ou les deux, qui bat sous l'armure bleu marine du ministre ou du président réaliste. Cet artifice rhétorique consistant à simuler l'impuissance, l'incapacité, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Et d'autant plus odieux qu'il est utilisé par des dirigeants qui sont en général arrivés au pouvoir en faisant campagne sur le refus de l'immobilisme, d'ailleurs, et du fatalisme. Et en nous expliquant qu'avec de la volonté politique, tout est possible, etc. Alors, venons-en donc à la question de la possibilité, des constats en termes de chiffres. Alors là, il y a des chiffres qui sont intéressants, là, encore une fois, et qui le rappellent, et qu'il est toujours bon de rappeler. C'est qu'à l'échelle de la planète, hein, selon un rapport du Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies, qui est paru en 2021, donc c'est récent, et qui concernait l'année 2022, eh bien, il y a 10 pays qui ne sont pas nous, en l'occurrence, donc c'est-à-dire ni la France ni la Belgique, 10 pays hein, sur 190, qui accueillent sur leur territoire un sixième des réfugiés du monde. Et alors, il s'agit dans l'ordre de la Turquie, de la Colombie, du Pakistan, de l'Ouganda, de l'Allemagne, du Soudan, du Liban, du Bangladesh, de l'Éthiopie et de l'Iran. Donc, oui. À ces pays-là. Donc,
que fait l'Allemagne ici?
Ben, l'Allemagne a ouvert ses portes, notamment avant le Covid. Mais en l'occurrence, effectivement, que fait l'Allemagne parmi ces pays accueillants et surtout ces pays archi blindés de pognon. Hein, oui, puisque entre le Bangladesh, l'Éthiopie, le Soudan, le Pakistan et la Colombie, on est évidemment sur le haut du panier. Alors, selon le même rapport, il continue. Donc, je rappelle, 10 pays qui prennent un sixième de la totalité des réfugiés en circulation en 2020 sur la planète. Selon le même rapport, une grande majorité des réfugiés, 73%, hein, presque les trois quarts, est accueillie dans un pays voisin du pays d'origine. Et une majorité plus grande encore, 86%, dans un pays dit en développement. 86% des migrants, des immigrés dans le monde, 86% sont accueillis, je mets des guillemets autour, dans un pays voisin et en développement. À eux seuls, je les rappelle, le Bangladesh, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Rwanda, le Soudan, la République unie de Tanzanie, l'Ouganda et le Yémen accueillent 6,7 millions de réfugiés, soit 27% du total mondial.
Mais ils peuvent.
Alors, en comparant le nombre de réfugiés par rapport à la population totale de ces pays, la même année, en 2020, c'est le Liban, puis la Turquie, la Colombie, l'Ouganda et le Soudan qui accueillent, entre guillemets, la plus lourde charge, toujours entre guillemets, la proportion de réfugiés s'élevant respectivement à 12,7% de la population au Liban, 4% en Turquie, 3,3% en Colombie, 3,1% en Ouganda, 2,3% au Soudan, de la population du pays, tandis qu'elle s'élève à 1,4% pour l'Allemagne et, loin derrière, à 0,7% pour la France. Donc là, on est sur les constats de faits. Hein ? Et donc, ce que nous montrent les faits, en l'occurrence, si on est sur les questions de constat, hein, les faits nous montrent ceci, le dit accueil de la dite misère du monde est de l'ordre donc du possible, et il est même réalisé, en fait, de facto, et pour sa plus grande part, il l'est par des pays dont la puissance économique n'est absolument pas supérieure à la nôtre, loin s'en faut. Alors, il continue pareil, avec des chiffres... voilà, qui qu'on devrait afficher en 4x4 ou faire défiler en bandeau sous les émissions de CNews, hein. N'importe laquelle, hein, on peut prendre au pif. Voilà. C'est que la France, seconde puissance économique d'Europe, se distingue par une puissance d'accueil qui est tout à fait ridicule, disent-ils, avec 226 890 titres de séjour accordés en 2020, soit 0,33% de la population du pays. Elle se situe très loin derrière les pays européens les plus accueillants, à savoir, roulement de tambour, Malte, 105 729 titres de séjour délivrés, soit 2,1% de la population maltaise. Derrière la Pologne, 1,6%. Derrière Chypre, 1,4%. Et en dessous de la moyenne européenne qui est, elle, à 0,5%. Pas très loin, en fait, hein, constate-t-il, des pays qui sont les moins accueillants en Europe, à savoir la Bulgarie, 0,15, et la Roumanie, 0,1. Hein, nous, je rappelle, on a 0,33. Enfin, on fait quand même trois fois plus que la Roumanie. Alors ça, c'est pour le constat, évidemment, on ne peut pas, hein, et sur le constat que, ben, non seulement... de fait, on pourrait, et que, de fait, d'autres le font. D'autres le font. Donc, si, effectivement, on peut, ben, c'est qu'effectivement... Nous, moi et les miens, ne voulons pas. Voilà. On va peut-être faire une première petite pause et puis on passera ensuite à la suite de l'analyse.
Quand les princes du port gardaient en main le sort, amis, de milliers d'exilés mal du mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer, reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie. Donc vous venez d'entendre Mano Charlemagne, Le Mal du Pays. Un morceau haïtien de 1984, choisi toujours par l'inénarrable José, qui prépare les émissions avec un soin et une attention ébouriffante.
Je suis
arabe. Bon, il vient de dire quelque chose en studio, je ne le répéterai pas. Ce soir, Jean-Mathias nous présente « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », en finir avec une sentence de mort. Un livre publié chez Anamosa, ou Anamosa, je ne sais pas, un livre donc de Pierre Thévagnan, philosophe, et Jean-Charles Stevens, un juriste belge, c'est ça. Et donc c'est un livre qui étudie cette fameuse sentence, énoncée d'abord par Michel Rocard et reprise ad nauseam par tout un tas de gens tout le temps. Et donc là on venait de voir en quelque sorte les... Qu'est-ce que signifiait ce « on » Qui est « on » Et que signifie ce « ne pas pouvoir » Et en fait, ce « ne pas pouvoir » se réduit assez vite quand on constate un petit peu, quand on regarde qui accueille qui et en quel nombre dans le monde, hein, « ne pas vouloir ». Voilà, on ne veut pas de vous qui n'êtes pas nous. On en s'est arrêté là avant la pause musicale.
Ça nous amène au point suivant, qui est la question de l'accueillir. Oui. Hein, puisque, évidemment, du coup, si on constate effectivement qu'un sixième des réfugiés de la planète sont accueillis par une dizaine de pays, hein, desquels la France ne fait évidemment pas partie, elle est même très loin derrière, eh bien, c'est que, en fait, la possibilité d'accueil, elle est matériellement prouvée, hein, puisque ces 10 pays, pour la plupart bien plus pauvres que la France, accueillent eux des quantités de réfugiés et d'immigrés bien plus importantes que nous. Alors venons-en maintenant. Donc évidemment, la question, un des acquis de ces chiffres-là, c'est de déplacer la formule, déjà de la reformuler. Hein. En un, nous ne voulons pas accueillir toute la misère du monde. On va voir ce qu'il en est du tout et de la misère du monde. Mais nous ne voulons pas, évidemment, ça change un petit peu les données du débat. Après, c'est une position politique qu'on connaît, mais qui a le mérite d'être plus explicite, et d'être plus identifiée aussi. Alors, venons-en à la question de l'accueil. Alors, évidemment, le terme d'accueillir, ici, il est lui aussi faussement évident et très trompeur, puisque le terme d'accueil, en fait, il peut avoir deux sens. Hein, c'est-à-dire qu'il a son sens usuel qui consiste, en fait, à accueillir de manière active en offrant l'hospitalité. Par exemple, lorsque vous allez accueillir des amis ou lorsque vous allez accueillir des gens qui sont dans le besoin chez vous, les nourrir, les loger, en prendre soin, etc. Donc ça, c'est le sens usuel hein, de l'accueil, quand vous réservez bon accueil à quelqu'un, etc. etc. Mais alors, du point de vue de l'ONU et du point de vue des institutions internationales, le terme d'accueil ne veut pas du tout dire ça. En fait, il veut juste simplement dire, il désigne la simple présence d'immigrants sur un territoire donné. Donc accueillir, il faut l'entendre ici au sens de compter sur son territoire, ce qui n'est pas exactement la même, ce qui n'a pas exactement les mêmes implications. Alors ça, c'est une première, évidemment, une première précision à faire. Si on dit accueillir, si on prend accueillir au sens de héberger, hein, un petit peu, c'est le. Alors d'ailleurs, il rappelle que c'est le terme que Rocard avait utilisé hein, en 89, là, à 7 sur 7. Au départ, c'était ce terme-là qu'il avait commencé par utiliser. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. Hein. Et évidemment, le terme d'héberger, il a lui aussi des connotations directes. Hein. Héberger, ça suppose évidemment qu'on vit tous dans une grande maison, hein, une grande maison, et que bah il y a ceux qui sont en cuisine, il y a ceux qui font le ménage, ceux qui font la peinture, que sais-je, n'est-ce pas ? Donc cette grande maison France, on est chez nous. Hein, on est chez nous, et là c'est pareil, évidemment c'est des connotations qui tout de suite sont beaucoup plus identifiables et identifiées, hein. Le on est chez nous, cri de ralliement de toutes les meutes fascisantes, nous dit-il, des meetings lepénistes et zémouristes, aux crimes de sang à caractère raciste, comme le meurtre du rugbyman Federico Martin Aramburu, l'année dernière, ou il y a un an et demi, assassiné par des identitaires hein, en pleine rue, au cri justement de « on est chez nous hein ». Alors, voilà. Donc plus largement, nous dit-il, hein, si le pays est conçu comme une maison, les nationaux, entre guillemets, deviennent en filant la métaphore, les uniques propriétaires ou locataires légitimes, et les résidents étrangers, fussent-ils installés et titulaires d'un bail ou d'un titre de propriété, se retrouvent relégués au rang d'invités, tenus de respecter de très dissymétriques lois de l'hospitalité, et donc soustraits au régime de l'égalité devant la loi commune. Nous y voilà, évidemment, quand vous êtes invité, j'ai quelqu'un. Il n'y a pas d'égalité de droit qui tienne, bien sûr.
Parce que on sait très bien que le fait comme chez toi, en fait, est toujours un mensonge.
Alors, le fait comme chez toi, oui, bon, sachant que là, en l'occurrence, on en est loin, on l'entend moins souvent sur CNews.
Très loin, c'est clair.
Et donc, bah, évidemment, ce petit toilettage de la métaphore de la domestique, hein, de la maison ou de l'hébergement et de l'accueil en ce sens-là, permet de recentrer évidemment la question de manière un peu concrète sur ce dont il s'agit, c'est-à-dire effectivement de voir dans quelles conditions vivent des étrangers présents sur le sol français. Concrètement. Et donc, évidemment, ça permet aussi de reformuler les enjeux, hein, la question ici, donc ce qu'ils disent. Pour le dire autrement, hein, contrairement à ce que peut laisser entendre ce verbe équivoque, ce qui est en jeu avant tout dans le débat public sur l'asile et l'immigration, et qui est refusé quand on prononce cette fameuse phrase sur la misère du monde, c'est pas la prise en charge personnelle ou à domicile de chaque misérable qui arrive en France, hein, bah, si vous les aimez tant, prenez-les chez vous. Donc, c'est pas cette prise en charge personnelle à domicile de chaque misérable qui arrive en France ou en Belgique, mais c'est plus simplement et plus prosaïquement le fait de laisser tranquille des gens qui arrivent dans ces pays et de ne pas les traquer comme des bandits, de ne pas les enfermer, de ne pas les expulser, de les laisser déjà céder eux-mêmes, disent-ils. Et si on recoupe évidemment avec ce qu'on a dit précédemment, eh bien la question, la fameuse formule « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » devient « nous ne voulons pas laisser » les étrangers présents sur notre sol tranquilles, et nous ne voulons pas leur donner la possibilité de trouver les moyens, en fait, de faire leur vie ici. Ce qui est évidemment déjà plus exactement la même chose.
Ce qui veut dire qu'on va se donner les moyens pour les en empêcher activement.
Et on va aussi se donner les moyens d'empêcher activement ceux qui, au contraire, considèrent que il est juste ou il est préférable, comme par exemple Cédric Héroux ou des gens comme ça, ou comme les gens poursuivis pour délit de solidarité, ceux qui considèrent que effectivement il est plus juste de faire en sorte de laisser tranquille en fait ces gens et de leur laisser construire par eux-mêmes les moyens dont ils ont besoin pour vivre sur le sol français. Conclusion de cette petite précision sur le sens de ce terme d'accueil, dites plutôt, dit Stevanian et Stevens à ceux qui prononcent cette sentence, dit plutôt que vous ne pouvez pas accueillir, ou mieux que vous ne voulez pas. Et si vous n'aimez pas la liberté de circulation, l'égalité des droits et la fraternité humaine, n'en dégoûtez pas les autres. Alors, le tout, maintenant. Le tout, il est bien aussi, parce que le tout, évidemment, c'est une totalité. Alors là, c'est le remplacement ultime, hein, puisque tout le monde veut nous remplacer, hein, veut nous grand remplacer. Alors, c'est pareil. D'abord, il y a une première chose à rappeler. Selon les chiffres toujours du Haut Commissariat aux réfugiés, il y a 281 millions de migrants recensés officiellement sur la planète. Et il est évident que parmi ces 281 millions, ils ne veulent pas tous venir en France. Donc c'est pareil, d'un point de vue factuel, on a déjà quelque chose qui pêche ici. Hein. Et ils le disent, il est bon en effet de le rappeler, vivre en France ou en Belgique n'est pas le rêve absolu de toutes les personnes déplacées. La plupart de ces 280 millions de réfugiés y cherchent et y trouvent d'abord refuge en Afrique et au Moyen-Orient, dans des pays voisins des leurs, voire dans le propre pays. Redisons-le. D'après les chiffres fournis par le HCR en 2021, sur les 82,4 millions de personnes déplacées au cours de l'année 2020, 45,9 millions, soit 55%, ont trouvé refuge d'abord à l'intérieur de leur propre pays. Et 36,5 millions, soit 45%, à l'extérieur. Et sur ces 45% qui ont trouvé refuge à l'extérieur de leur propre pays, 36,5 millions, c'est-à-dire les trois quarts, ont été accueillis dans un pays voisin du leur. Et 86% de ces immigrants ayant trouvé refuge en dehors de chez eux, 86% ont trouvé refuge dans un pays dit en développement. Donc au final, seuls 6,3% des déplacés ont migré vers un pays riche. Sur toute la misère du monde, on est déjà sur quelque chose qui doit être donc remis en perspective. Toute la misère du monde qui menace de nous grand remplacer ne pèse jamais, en 2020 du moins, que 6,3% de la quantité totale de migrants recensés dans le monde.
Et donc on découvre aussi que, assez étonnamment, les gens n'aiment pas partir trop loin
de chez eux. Qui l'eût cru ?
Qui l'eût cru ?
Hein ? Alors évidemment, ces chiffres-là qui sont simples, hein, qui sont publics, qui sont vraiment macro, hein, on ne rentre pas dans le détail évidemment là, mais ça permet de dégrossir déjà un peu le tout de toute la misère. Ce qui est demandé à des pays riches, nous dit Stevanian et Stevens, comme la France, la Belgique et l'ensemble des pays européens. Donc c'est donc simplement d'assurer à cette totalité, c'est-à-dire aux migrants. Ça, effectivement, c'est une exigence. Un droit qui est reconnu par les traités internationaux, qui s'appelle le droit d'asile. Et plus largement, le droit de quitter son pays et donc d'élire domicile et de refaire sa vie dans un autre. Ce qui est demandé, c'est que l'Europe accueille décemment des réfugiés qui représentent autour de 1,5% de sa population, à savoir 6,5 millions de réfugiés pour 513 millions d'habitants en 2019. Donc le « nous ne voulons pas accueillir les étrangers », effectivement, doit aussi s'accompagner de ses conséquences logiques, qui est « nous ne voulons pas de l'égalité des droits sur notre territoire », »,« nous ne voulons pas de la liberté de circulation sur notre territoire pour les autres », et puis « nous ne voulons pas non plus respecter le droit d'asile tel que nous sommes engagés à le faire dans les traités internationaux », et « nous ne voulons pas, effectivement, au maximum 1,5% de notre population européenne, de nous autres, puisse effectivement vivre et résider sur le territoire européen. Il continue en disant ce qui est demandé, c'est que ces pays riches fassent sensiblement plus que ce qu'ils font jusqu'à présent. Entre 43 000 et 60 000 titres de séjour délivrés chaque année en Belgique, respectivement en 2013 et en 2019, et entre 199 000 et 285 000 en France, respectivement en 2012 et en 2019, soit entre 0,4 et 0,52% de la population totale pour la Belgique et entre 0,3 et 0,4% de la population totale pour la France, pour ces deux années. Notons qu'en 2018, avec un taux de 0,52 pour la Belgique et de 0,4 pour la France, ces deux pays se trouvaient nettement en dessous, une fois encore, de la moyenne européenne, qui est à 0,63, et respectivement au 21e et au 27e rang sur 32 pays européens. Alors, il continue, là, toujours pareil. Là, c'est
la France, terre des droits de l'homme.
Terre des droits de l'homme, terre d'asile. Effectivement, il rêve de toute la misère du monde. Alors, le problème, c'est que ce qui est certain, en revanche, nous dit-il, c'est qu'un mensonge qui est répété prend souvent des allures de vérité et qu'un leitmotiv, comme toute la misère du monde, finit par produire des représentations, des fantasmes et des phobies. Une enquête réalisée en 2015 dans 33 pays a notamment montré que la proportion de migrants, on a cité les chiffres à l'instant, là, vivant sur les territoires nationaux concernés était systématiquement surévaluée par les sondés. De plus 14% en Norvège. Hein, une moyenne de 16% de migrants imaginés pour une réalité de 14%. C'est surévalué de plus 500% en Argentine. Où les sondages donnent 30% de migrants imaginés pour 5% de migrants réels, et même de plus 8233% au Brésil. C'est-à-dire qu'au Brésil, il y a 25% de migrants imaginés, selon les sondages, pour 0,3% de migrants réels. Cet excès de migrants imaginés s'élève à plus 237% en Russie, où la population imagine 27% d'immigrés là où il n'y en a que 8, de plus 136% aux États-Unis, 33% d'imaginés pour 14% de migrants réels, et de plus 116% en France et en Allemagne, 26% imaginés pour 12% de migrants réels dans les deux pays. Plus 140% en Belgique, 24% imaginés pour 10% de migrants réels, avec les effets que l'on sait en termes de xénophobie décomplexée, pudiquement rebaptisé « inquiétude » ou « insécurité culturelle », le disent-ils. Alors, ces chiffres, évidemment, et ces paniques xénophobes, elles ne sont pas nouvelles. Hein, alors, ils refont, bon, on l'avait déjà, lorsqu'on avait parlé d'un certain nombre de textes de Hervé Lebras, remis en perspective historique, hein, ces espèces de paniques racistes et xénophobes, alimenté par des médias, par des publicistes, par des essayistes, etc., etc. Donc il y a quelques citations aussi qui sont bien pas piquées des hannetons. Là, il cite un certain le maire socialiste de Marseille. Alors bon, Simon Flessière qui réclamait en 1923 qu'on rapatrie sans délai, je cite, ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour tout le pays entier. Alors on y développe un peu. Depuis quelque temps se produit, selon Siméon Flessière en 1923, depuis quelque temps se produit vers la France par Marseille un redoutable courant d'immigration des peuples d'Orient, notamment des Arméniens. Ces malheureux assurent qu'ils ont tout à redouter des Turcs. Quelle blague! Au bénéfice de cette affirmation, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus de 3000 se sont déjà abattus sur les quais de notre grand port. Après l'Albano et le Caucase, d'autres navires vont suivre. Et l'on annonce que 40 000 de ces hôtes sont en route vers nous, ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous. S'ils n'y sont pas déjà, en germe pullulant depuis l'arrivée des tout premiers de ces immigrants, dénués de tout, réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. Là, c'est des Arméniens.
Alors, c'est un socialiste.
Et c'est un socialiste, bon, en 1923. Mais
déjà, bon, en fait, oui. En fait, c'était pas 83.
Hein, c'était le tournant de la rigueur, c'est bien avant. Mais non, mais si, en même, alors, cette citation a quelque chose d'un peu rassurant, je trouve, parce que là, pour le coup, il y a un siècle pile. Hein, tu vois. Et on voit qu'effectivement les représentations évoluent. Les Arméniens ne sont plus considérés comme porteurs
de la peste, du typhus, voilà, du choléra. Ouais.
Une décennie plus tard, donc 1933, l'éminent démographe Georges Moko stigmatisait la déliquescence morale de certains levantins arméniens, grecs, juifs et autres métèques, trafiquants et négociants, en des termes qui rappellent là encore étrangement et funestement l'actuelle rhétorique de l'immigration choisie. Cette fois-ci, alors il cite l'éminent démographe Georges Moko, l'influence de ces étrangers au point de vue intellectuel, encore que difficilement discernable, apparaît surtout comme s'opposant à la raison, à l'esprit de finesse, à la prudence et au sens de la mesure qui caractérise le français avec une majuscule. De ces savantes classifications qui ne font que reformuler sous une forme sublimée une bonne grosse discrimination raciste bien sordide, le refus du tout est aussi comptable.
Alors, qui était ce vaillant antisémite là?
Alors, un démographe, Georges Moko, pour le deuxième, d'accord, et donc Siméon Flessière, l'inénarrable.
Maire socialiste de Marseille.
Socialiste de la Canebière de 1923. Alors, sur la misère du monde, alors ça c'est peut-être le passage qui est le plus intéressant. Est-ce qu'on se fait une deuxième petite pause et puis on se le garde pour la fin parce qu'il s'attaque un peu au.
Et là, vous allez entendre l'argumentaire. Monsieur Blodia. Oh,
aligne. De quels privilèges t'ont-ils doté? Vas-y, aligne. Quand je dis il, je parle des fils de brutes qui assignent pied, deal, but. Parasite qui s'éparpille, pollue des terres tout azimut. Armée, colonie, drame et calomnie. Vers les passages de ligne, question de mort, de vie digne. Dans le partage, espoir, courage, solution s'aligne. Douleur maligne, dans le sillage, ça partage des expériences, des trampolines. Pince tes seigneurs, les princes, la terreur, quadrille les secteurs. Garde les yeux écarquillés, guette les carrières. On parle de justice, peu de respirer. Pas de piste tant qu'il se prend en mode céréales qui est là. No border, plus de frontières. No border, plus de frontières. No border.
Fucked up, but it ain't no bang.
Des traits, des limites, sortis des têtes, des fils de brutes. Des terres, des rites sur lesquels ils empiètent, provoquent des chutes. De l'estime de soi, de cohésion ancestrale. Qui va là, qui va là, gaffe à mon espace vital. Des coups de frères, civilisateurs, ah, la totale. Et ces toiles sauvages, m'attendent pas tes cracks. T'évites le naufrage, grâce aux armes, aux arnaques. No border, plus de frontières. 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 No border. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Coupage de barbelés, brisage de murs. Rivage à accoster, courage d'envergure. Une pensée pour Silu. Big, big, big.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 84, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit donc pour sa troisième et dernière partie. Jean-Mathias donc, nous présente un livre de Pierre Thévagnan et de Jean-Charles Stevens, publié chez Anamosa. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort en sous-titre. Et donc là, on était passé justement à l'accueillir. Qu'est-ce que ça signifie? En quelque sorte, leur donner tout le confort moderne, la sécurité sociale et le chômage, ou juste ne pas les pourchasser avec des policiers, des matraques, des CRS et des gaz lacrymaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, évidemment, en France, ça veut dire les pourchasser activement, d'accord? Et comment dire? Et puis ensuite, justement, est-ce que toute la misère du monde veut venir chez nous? Et en fait, non, pas du tout. Il se trouve assez étrangement que les gens obligés de fuir leur pays pour X raisons préfèrent généralement fuir non loin de chez eux.
Le moins loin, en tout cas.
Le moins loin, dans l'espoir sans doute d'y retourner.
Sauf 6% d'entre eux.
Voilà, sauf 6% d'entre eux qui, pour X raisons, exercent leur droit finalement aussi à quitter leur pays et essayer de refaire leur vie ailleurs, au moins provisoirement. Et peut-être définitivement, mais à la limite, ça les regarde, quoi. Et donc, voilà où on en était. Alors, la suite du décortiquage.
Alors, d'abord, il faut. Je trouve que le livre est assez habile. Il n'est pas simplement. Il n'est pas simplement informé, et puis. Et pertinent politiquement. Il est aussi habile parce que là, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a une vertu quand même. Très importante, c'est qu'en fait, ils remettent le débat là où il doit être, c'est-à-dire effectivement sur la question de savoir est-ce que nous voulons, et qui est ce nous, hein, qui veut d'une certaine manière, et qui ne veut pas que ces 6% là de la totalité des migrants du monde puissent exercer leur droit d'asile dans les pays qui ne sont pas frontaliers du leur, hein, donc notamment les pays européens ou les pays les plus riches. Et là, évidemment, du coup, l'échange d'arguments devient possible à partir de ce moment-là. Et l'échange d'arguments, et donc on a une politique qui s'appuie effectivement sur du factuel et non plus sur des migrants imaginaires, des remplacements imaginaires, des communautés imaginaires, des maisons nationales imaginaires, etc., etc. Et c'est dans la dernière partie, justement, sur la misère du monde que ils vont s'attaquer un petit peu aux arguments qui sont avancés les plus rarement, mais qui sont aussi évidemment importants et qui cadrent un peu le débat politique sur l'immigration. Donc d'abord sur le terme de misère, bien sûr, le terme de misère, lui aussi, il doit être évidemment pris avec beaucoup de précautions, parce que quand on parle de la misère, hein, il précise que dans ce cas-là, évidemment, on ne parle pas de femmes, on ne parle pas d'hommes, on ne parle pas d'enfants qui seraient dans la misère. Hein, on ne parle pas non plus de miséreux, on ne parle pas non plus de misérables, on parle de la misère. La misère qui est une misère sans nom, sans sexe, sans visage, une misère, nous disent-ils, qui est tellement essentielle, fondamentale, indécrottable, qu'elle prend toute la place jusqu'à effacer l'humanité de celles et ceux qui la supportent. Et qui semblent, dans cette phrase, la transporter sur leur dos, en tout lieu, du lieu d'origine au lieu d'installation, et en tout temps, hein, du passé qui a causé l'immigration, au présent de l'immigration, jusqu'au futur qui est pourtant dans l'esprit de tous ces arrivants, un futur meilleur. Donc il y a effectivement cette espèce d'assignation à la misère. Ce malheur dont ils et elles veulent s'extraire leur est renvoyé comme une seconde nature, hein, nous dit Stéphanian et Stevens, un destin, une identité, un sobriquet. Misère tu fuis, misère tu es, misère tu resteras. Alors il y a cette première connotation évidemment, et puis viennent ensuite une première remarque. Il cite ici François Héran, hein, dont on avait présenté un des livres ici, sociologue et démographe au Collège de France, qui dit que si jamais on peut parler de misère de manière un peu générale, il faut certainement pas parler des migrants eux-mêmes, mais que le seul sens dans lequel on peut parler de la misère du monde, c'est la misère des États. Nous dit Héran, il rappelle ça, il nous dit plus que la misère du monde, alors ça c'est Héran qui est cité, hein, c'est la misère des États qu'il faudrait évoquer comme ressort majeur de la migration. Sans parler des situations de guerre civile et de persécution qui suscitent les flots de réfugiés nombreux, ça se passe dans les pays trop démunis pour garantir un minimum de sécurité aux projets individuels. Ce sont des pays ou des États dont les administrations sont désorganisées, système politique instable, les infrastructures insuffisantes. S'ils disposent d'un minimum de ressources, ceux qui veulent améliorer leur sort vont chercher ailleurs les garanties nécessaires à leur projet, ce qui rend parfois difficile la distinction entre migration économique et migration politique, au passage. Alors, voilà, le seul sens dans lequel on peut parler de misère, un peu au sens général, ça pourrait être peut-être la misère des États, effectivement, d'origine. Auquel cas, c'est pas non plus, évidemment, ce qui est sous-entendu lorsqu'on parle de la misère du monde, puisqu'il s'agit là en l'occurrence des passagers de l'Ocean Viking et non pas des États desquels ces passagers sont originaires. Alors, venons-en maintenant sur l'aspect économique. Alors, c'est pas l'argumentaire qu'ils mettent forcément le plus en avant, puisque ils ont déjà avancé des arguments plutôt en termes de respect de l'égalité des droits, de respect de la liberté de circulation, de respect du droit d'asile, le tout appuyé sur des faits. Mais si on en vient sur des arguments économiques, ils tordent aussi le cou à cette idée selon laquelle, en fait, l'arrivée de migrants serait en fait quelque chose qui appauvrirait les vrais Français, hein, les Français de France, puisque évidemment, comme chacun sait, ils viennent attirés par cette pompe aspirante des allocations familiales, des minima sociaux, de l'aide médicale d'État, etc., et que tout ça coûte un pognon de dingue, pour paraphraser. Alors, d'après les données de l'INSEE en 2018, nous disent-ils, là encore, 32% des actifs immigrés étaient ouvriers contre 20% des autres actifs. 13% seulement étaient cadres ou professions intellectuelles supérieures, contre 18% des autres actifs. En 2020, la proportion de non-diplômés en dessous du bac ou du CAP-BEP variait entre 34,6% et 38,6% chez les immigrés de divers continents, tandis qu'elle était seulement de 18,9% chez les autochtones. Donc ça, c'est les statistiques de l'INSEE. Quant au taux de chômage, il atteignait 15,3% en 2018 et 13,9% en 2019, contre 8,3% et 7,8% chez les autres autochtones. Là aussi, c'est les statistiques de l'INSEE. Donc ce qui est vrai, c'est ça factuellement, c'est que les immigrés présents sur le territoire sont surreprésentés dans les professions moins qualifiées et que le chômage y est plus élevé pratiquement d'un tiers. Donc ça, ce sont effectivement des données dont on dispose dans l'INSEE. Maintenant, la question est de savoir si, une fois qu'on a dit ça, ça justifie le fait qu'il représenterait un coût plus important par rapport justement aux catégories de la population autochtone. Et là, en l'occurrence, ben, ce qui montre aussi, ce qui rappelle, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce
n'est pas le cas. Il a des droits en tant que chômeur, par exemple.
Alors, il peut avoir des droits, mais ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Hein. C'est, il rappelle, alors là, c'est une étude qui est publiée par l'OCDE, donc ce n'est pas ni No Border, ni le GISTI, ni voilà. L'OCDE, en octobre 2021, donc une vaste étude portant sur la période 2006-2018, donc là, on est sur une grosse décennie, le confirme. Dans l'ensemble des 25 pays membres de l'OCDE, les dépenses publiques consacrées aux immigrés sont plus faibles que pour le reste de la population, dans plusieurs domaines, comme les pensions de vieillesse et de réversion, la maladie, l'invalidité, et surtout l'éducation et la santé. Surtout l'éducation et la santé. Alors, comment comprendre cela ? Les évaluations comptables à charge, hein, donc c'est-à-dire le coût que représente économiquement l'immigration, elles ont pour défaut principal d'être, selon les termes éclairants de l'économiste Ahmed Trita, figées sur une photo, alors que la contribution d'une personne doit être évaluée sur le cycle d'une vie. Là, il y a un passage que je trouve effectivement intéressant, qui est bon de rappeler aussi. Donc là, il cite cet économiste là que je ne connaissais pas, Trita. Plutôt qu'une photo, il s'agirait d'un film, dit l'économiste. Une première séquence, enfant, jeune, est consacrée à la formation. La contribution aux finances publiques est négative. Ça coûte d'éduquer les enfants. Le capital humain de demain, facteur essentiel du niveau de vie futur, est constitué au cours de cette période. La séquence suivante est consacrée à la vie active avec une contribution positive. À partir du moment où on travaille, on produit des richesses, on cotise, etc., on consomme. Enfin, en dernière séquence, retraité, la personne vit des créances détenues sur les jeunes générations. Sa contribution fiscale est à nouveau négative. Et oui, les pays, ils touchent une allocation de retraite et donc ils coûtent. L'immigré, dès son arrivée en seconde période de vie, contribue aux finances publiques. Autrement dit, pour l'essentiel, la contribution au capital humain de son pays d'accueil a été financée par les actifs de son pays d'origine.
En gros, on n'a pas payé sa formation. Et donc, il arrive déjà formé et on l'embauche sans avoir payé sa formation, ce qui fait que c'est un bénéfice net. Ça, c'était le principe de base. Alors, de l'esclavage, en fait. C'est arracher les gens à chez eux et les faire travailler alors qu'ils nous ont rien coûté.
Économiquement. Donc, de ce point de vue, le capital humain d'un immigré rapporte toujours davantage qu'il ne coûte. Alors, il rappelle aussi au passage que en fait les prestations sociales, les minima, etc., etc., qui sont pour le coup touchées, alors proportionnellement moins chez les immigrés que dans d'autres catégories de la population, permettent effectivement de soutenir leur consommation, hein, qui contribue à augmenter la demande finale de biens et de services, qui stimule l'activité et par ricochet l'emploi. Donc les minima sociaux aussi, ils ont cet effet économique-là. Et il rappelle aussi que les études qui ont été menées depuis plusieurs décennies, alors ça c'est sur la question des rapports entre immigration et chômage, qui est évidemment un leitmotiv qui a été allègrement alimenté par le Parti communiste en son temps et qui maintenant est devenu un peu une des lignes classiques du Front National. Et les études menées depuis plusieurs décennies sur la relation entre immigration, taux d'emploi et niveau des salaires montrent que l'immigration ne provoque pas de chômage chez les nationaux et qu'elle tend plutôt à élever le salaire des dits nationaux qu'à faire pression à la baisse. Pourquoi ? Parce que les immigrés entrent dans une relation de complémentarité plutôt que de substituabilité avec les autochtones, disent-ils. Les métiers pourvus par les arrivants sont souvent des métiers qui ne sont pas convoités ou qui sont moins convoités par les Français. Par exemple, les actifs immigrés extra-communautaires actuellement s'orientent trois fois plus que les autres actifs vers l'hôtellerie-restauration, l'intérim, la sécurité ou le nettoyage. C'est pourquoi, si concurrence il y a, celle-ci s'exerce davantage entre anciennes et nouvelles vagues de migrants qu'entre migrants et natifs ou natives. Évidemment, pour terminer, allez vite, puisqu'on touche à la fin de l'émission, évidemment, on sous-estime aussi systématiquement toute l'énergie entrepreneuriale dont sont porteurs des gens qui sont prêts parcourir des milliers de kilomètres, à risquer leur vie sur un canot de sauvetage pour aller construire leur vie et s'épanouir à l'autre bout du monde et échapper à une mort ou à une absence d'avenir certaine.
En prenant tous les risques.
En conclusion, vous devinez un petit peu où effectivement ça va tomber de leur point de vue. C'est qu'il s'agit évidemment pour eux, en s'appuyant sur, en rappelant ces faits, hein, de montrer que le but et surtout les effets concret de cette fameuse sentence « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », c'est non pas un constat, certainement pas, c'est un engagement, c'est une affirmation, l'affirmation d'une volonté xénophobe, et qu'elle produit quoi, cette sentence ? Ben, elle produit ce qu'elle est censée, en général, ce dont elle est censée nous protéger. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, avec cette formule, justement, de misérer, comme ils disent, hein, de faire la misère, hein, de faire la misère à toute une partie de la population présente sur le sol du pays, en la contrôlant, lui renfaisant de droits, en l'exploitant, en la sous-payant. Et ce qu'on sous-estime également, évidemment, c'est que ces politiques de répression, qu'elles soient de contrôle aux frontières ou de répression sur le territoire, elles ont, elles aussi, un coût certain, qui est exorbitant et qui n'est évidemment jamais pris en compte par la moindre émission de CNews. Voilà. Alors, vous avez... Bon, il y a encore un certain nombre de choses à dire, d'autres points qui sont peut-être un peu moins convaincants dans ce qu'il nous raconte, mais j'espère vous avoir donné un peu une idée, un peu vous avoir donné envie, hein, d'aller regarder d'un peu plus près ce petit texte-là qui vient de sortir donc aux éditions Anna Moza, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, entre guillemets, en finir avec une sentence de mort de Pierre Thévenin et Jean-Charles Stevens.
Donc vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est des jeudis noirs. Vous pouvez retrouver l'émission sur Gurdulu. Et vous tapez Gurdulu, archive, jeudi noir, il y a tout. Ainsi que les références des morceaux. Et puis on vous laisse. Et
avec
Famille d'accueil, un morceau qui s'intitule Jetable. C'est un nouveau groupe avec Alice et Ben de Trashley, un groupe qu'on aimait beaucoup. Qui s'est séparé il y a quelques temps déjà. Non, Trashley, tu sais pas, bon, ok. Donc on les a vus en concert, tout ça, voilà. Et donc on se retrouve dans deux semaines et bonne continuation, allez bien d'ici là.